Beurre FM, le best-of.
9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et oui, mon cher Philippe, Maître Serran est de retour pour la première émission de l'année 2021 et je sens que ça vous fait plaisir, mon gaillard. Bon, il paraît qu'il existe une tradition qui voudrait que l'on souhaite plein de bonnes choses aux uns et aux autres. C'est vrai, hein, tout le monde se souhaite une très belle année, une bonne santé, je te souhaite de la réussite, plein d'argent. Ah, j'ai horreur de ce type de déclaration, ce côté mielleux parfois de la chose. Explique-moi pourquoi tu me souhaiterais autant de belles choses, à la limite que les membres de ta famille ou encore au sens strict hein, même du terme, voire des amis sincères te souhaitent de telles choses, ça peut s'entendre. Mais un type qui serait, tiens, par exemple un collègue de bureau, pourquoi il te souhaiterait toutes ces jolies choses alors que toute l'année son souhait premier c'est que tu te plantes au boulot pour qu'il puisse se faire mousser auprès du patron. Je te le dis, camarade, le degré d'hypocrisie durant cette période est sans limite. Oh, je suis comme ça. Moi, j'ai du mal à croire en la gentillesse spontanée de mes semblables. D'aucuns diront que c'est peut-être la déformation professionnelle, mais d'autres te diront que c'est peut-être juste de la lucidité. En fait, mais je vous l'ai déjà dit, mon cher Philippe, moi, je n'aime que Noël. Faut croire que je suis resté un éternel enfant avec des cheveux en moins et quelques rides. Peut-être que Maître Serran a tout simplement peur de vieillir, mais c'est à cause de vous tout ça, mon cher Philippe. Avec vos 67 ans, vous êtes toujours là à me faire des confidences que je garde pour moi, mais sur votre dégradation physique liée à votre âge, performance sexuelle atténuée, voire inexistante, il vous arrive même de péter en public sans vous en rendre compte. Quelle déchéance, la vieillesse, quand je pense qu'il fut un temps où il vous arrivait de vous prendre les pieds dans vos lacets, vous souvenez de cette jeunesse insouciante, alors qu'aujourd'hui, il vous arrive régulièrement de vous prendre les pieds dans vos baloches qui pendouillent. C'est pas beau de vieillir, mon cher Philippe, je vous assure que c'est pas beau. Mais laissons ces considérations personnelles et évoquons l'événement de la semaine. Que dis-je, l'événement du siècle, hein, l'invasion du Capitole. Je suis certain que dans très peu de temps, on en fera un film américain de cette histoire. Le Capitole attaqué du jamais vu, hein, dans ce qui est considéré comme la plus grande démocratie du monde. On parle quand même des United States of America, mon ami. D'habitude, ce sont les États-Unis hein, qui font en sorte de déstabiliser le régime politique de certains pays, mais là, c'est leur régime qui a tremblé. Tu remarqueras que quand un tel événement arrive aux États-Unis, tout le monde est atterré. Quand ça arrive dans un pays africain, on trouve ça normal, ça fait 2 minutes aux infos. Oui, aujourd'hui, au Burundi, 3e coup d'État en un mois, et hop, on passe à autre chose. Bon, ça va, ça s'est bien terminé, ce faux coup d'État. Il n'y a eu, si je puis dire, que 4 morts, car ce sont des Blancs qui manifestaient, faut pas l'oublier. Que se serait-il passé si le Capitole avait été attaqué par des manifestants noir, that is the question. Vous avez 2 heures, mais au préalable, molhababekoum, vous êtes les bienvenus pour cette première émission 2021. Posez vos questions 01 53 48 3000. Émission sous le contrôle de celui qui a toujours un mental de jeune et un physique de vieux, monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Merci, maître Serran. Meilleurs vœux, bonne année tous et mes bonne voeux. Santé. Tous mes vœux.
Bonne année, hein, très les, bonne santé avant
tous
tout.
Tous les collègues de bureau sont venus et vous ont souhaité des meilleurs vœux. Ouais. Hein.
Alors, je ne sais pas ce que je retirerai comme conclusion.
Ah, écoutez, maître Serran, tout le monde vous aime.
Sérieux? Ça fait plaisir ce que vous dites. Mais faites non, attention, je vais me mettre à pleurer.
Non, mais vous le croyez.
Ah bon?
Non.
Oh, la déception. Je vais me mettre à pleurer quand même parce que je suis déçu.
Bien, vous êtes allé chez le coiffeur, maître Serran.
Oui.
Entre les deux tours, vous avez.
Ouais, c'est bien ça.
Ouais. Hum?
J'ai été chez le coiffeur. Alors, j'aime bien aller chez le coiffeur quand il n'y a absolument personne. C'est-à-dire, je passe parfois 15 fois. Et dès qu'il n'y a personne.
Mais... Vous attendez qu'il n'y ait personne.
D'accord. J'ai horreur, je ne sais pas pourquoi.
Mais il vous fait un shampoing ou il est avec la petite vapeau?
Non, mais bien, c'est normal, un shampoing. Ce serait même vexant qu'il vienne en me disant je vous fais un shampoing et tout. Non, mais franchement.
Il vient avec l'éponge.
C'est presque ça. Après, il vient quand même avec une petite serviette, vous savez, il vous... mais j'ai envie de lui dire, tu souffles un peu, et puis voilà, mon crâne est sec, ça sert à rien de faire semblant. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Hein.
Bon, vous avez rendu votre sapin, maître Serran?
Oui, alors j'ai retiré toutes les décos, et puis on s'en est débarrassé de ce pauvre sapin, mais qui a agréablement égayé ces quelques jours. Moi, j'adore ça. Enfin, je vous l'ai déjà dit, mais je suis un amoureux du sapin.
On fait durer ça.
Ouais.
Bon, alors la fameuse réforme de procédure de divorce est entrée en vigueur le 1er janvier dernier. On en avait parlé rapidement en fin de l'année dernière, notamment quand nous avions parlé, Maître Serran, du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Et ouais. Donc, là, ça change un petit peu, puisqu'on n'est plus obligé d'attendre aussi longtemps.
Absolument. Alors, ça change même beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que pour comprendre un peu la philosophie de toutes ces réformes, c'est faire en sorte que les procédures durent le moins longtemps possible pour désengorger aussi les tribunaux qui sont ultra saturés. Donc c'est vrai que ça passe par toute une série de réformes, et il y a cette réforme importante qui concerne donc cette en particulier cette procédure de divorce, mais elle est quand même plus générale. Pour rappeler un peu comment ça se passait avant, quelle que soit la procédure de divorce, en dehors de la procédure par consentement mutuel, hein, maintenant devant le notaire le plus souvent, mais pour les autres types de procédures, ça se passait en deux temps. L'avocat déposait une requête, on avait une première audience avec présence obligatoire des clients, et puis une décision qui était rendue, une ordonnance de non-conciliation. Donc déjà tout ça va disparaître, et ensuite on était autorisé à signer. Et au bout de X mois, le magistrat était amené à prononcer le divorce. Donc tout ça est balayé. Il faut savoir que l'ordonnance de non-conciliation n'existe plus. Maintenant, l'avocat va directement assigner. C'est-à-dire, en gros, on passe quasiment presque à la deuxième partie de la procédure. Donc on va contacter le greffe du tribunal. Il va nous donner une date. Et au moment où on envoie l'assignation, on connaît déjà la date à laquelle les clients vont devoir se présenter. C'est quand même une bonne chose, puisqu'il faut savoir que avant cette réforme, au moment où on déposait cette fameuse requête, en fonction des tribunaux, il fallait compter entre 4 et 6 mois pour avoir le premier rendez-vous. Mais on n'avait pas de date précise.
Donc ça accélère.
Oh, mais ça accélère considérablement, et vous savez, ça rassure le client. C'est-à-dire que au moment où vous engagez la procédure, quand vous lui dites on sera convoqué tel jour, telle heure, voilà, il fixe sa date dans l'esprit, alors que la procédure qu'on avait auparavant, vous déposiez la requête, le client vous appelait régulièrement et légitimement, et vous étiez incapable de lui donner la moindre date. Donc maintenant, on aura une date. Chose nouvelle aussi, les personnes sont pas obligées de se présenter physiquement. Donc ça aussi c'est intéressant. Auparavant, donc les clients pouvaient pas faire l'économie de leur présence physique, mais il faut savoir que cette présence, en tout cas cette absence de présence physique des clients, on voit ça maintenant dans beaucoup de procédures. Alors vous savez, j'ai commencé il y a un petit bout de temps à exercer cette profession, il y a un peu plus de 20 ans, et auparavant, ouais, je sais, bon, mais auparavant dans beaucoup de procédures, il fallait que le client physiquement soit présent. Aujourd'hui, on a beaucoup de procédures où le client est physiquement présent quand, par exemple, le magistrat le demande ou l'ordonne. Sinon, il y a cette évolution où les procédures se feront désormais avocat, magistrat, et puis le client reçoit sa décision. Alors, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais en tout cas, qu'on veuille ou non, il y a un effacement de la personne physique et la première qui est concernée. C'est parfois embêtant, parce que ça fait aussi du bien à notre client de voir le magistrat, ne serait-ce que pour être un petit peu rassuré. Donc il faut savoir que la tendance maintenant étant que l'avocat donc sera amené à représenter de plus en plus les uns et les autres. Autre différence, lorsque vous engagez la procédure, il faut prendre un avocat. Mais lorsque vous êtes la partie adverse, auparavant, vous pouviez vous présenter à la première audience sans avocat. Désormais, ce sera plus possible. C'est-à-dire que l'avocat va être obligatoire, puisqu'on n'est plus dans le cadre de ce qui s'appelle une requête, mais dans le cadre de ce qui s'appelle une assignation. Donc la partie adverse devra de facto prendre un avocat et ne peut pas se présenter, en tout cas tout seul. Autre élément important pour cette histoire de rupture et d'altération définitive du lien conjugal, il y a quelques siècles, comme dirait Haute, avant la toute première réforme, il fallait se séparer à minima 6 ans, ensuite c'est passé à 2 ans, et puis maintenant, miracle, c'est plus, entre guillemets, qu'une année. Mais ce qui est important, c'est quoi? Ce qui est important, c'est la computation du délai.
Là,
computation. Oui, alors c'est vrai qu'on
parle. Alors c'est vrai que Maître Serran, il y a des mots que vous devez utiliser avec beaucoup de précaution. Il est pas beau ce mot-là. Non, enfin, computation.
Donc en tout cas, c'est le timing à respecter. Vous préférez ça?
Ouais, je préfère.
Voilà. Donc auparavant, timing à respecter. Je dois justifier que je suis séparé de mon conjoint pendant 2 années. Alors justifier avec des documents en disant j'ai une nouvelle adresse et ainsi de suite, des témoignages. Je justifie donc de cette séparation et c'est seulement lorsque les 2 années arrivent que le magistrat sera amené à prononcer le divorce sur ce motif-là. Les 2 années sont réduites à 1 année et cette année ne démarre pas à partir du moment où ça fait 1 an que vous n'avez pas vu madame, mais elle peut, cette année d'absence en tout cas, ou de procédure, à partir du moment où vous engagez la procédure, le magistrat s'il constate que pendant 1 an, dans le cadre de cette procédure elle-même, c'est-à-dire vous attendez pas à la fin d'une année, vous engagez la procédure, vous l'engagez tout de suite, et si vous êtes évidemment séparé de monsieur ou de madame, et si au bout d'un an vous êtes toujours dans un lieu différent, vous avez un domicile différent, le magistrat sera amené à prononcer le divorce. Donc c'est dire la vitesse avec laquelle aujourd'hui, enfin aujourd'hui, demain, les procédures vont se faire maintenant. Il faut quand même tempérer un peu les choses, c'est ce qu'on nous annonce aujourd'hui. Donc c'est une réforme qui est très récente, on ne sait pas si toutes les juridictions sont préparées à ça. Donc on nous annonce effectivement des procédures beaucoup plus courtes, mais on reparlera, comme dirait l'autre, de ce divorce lorsque les premières décisions seront tombées pour voir si effectivement on est dans un timing, on va dire, normal et raisonnable. Mais il faut se dire qu'à minima, effectivement, maintenant, les 1 an, quand on parle d'un an de procédure pour être séparé, ça devrait pouvoir être respecté et ça devrait pouvoir très souvent, c'est évidemment ça qui embête nos clients, faire plaisir à nos clients quand ils ont un délai très précis que vous leur donnez, vous engagez la procédure, vous leur dites on sera convoqué tel jour, et à partir du moment où vous sortez de chez le magistrat, vous pouvez lui dire écoutez, dans 1 an a priori votre dossier sera terminé. Et c'est ça qui crée souvent des litiges, vous savez, ou des tensions entre les clients et les avocats, c'est des histoires de délai, et ils ont du mal à comprendre que l'avocat n'est pas maître du timing. Voilà, on n'est pas maître des horloges, comme dirait l'autre. On est tributaire, évidemment, et du tribunal, et parfois même du magistrat qui gère votre dossier. Mais cet aspect-là donc devrait être balayé et ça devrait être très cadré. Ce qui est embêtant, en fait, pour... Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, hors antenne, que là, tout de suite après, je vais à Bobigny pour une procédure de divorce. C'est vrai que si ces procédures avaient été engagées maintenant, on aurait pu leur donner un délai très précis. Il y a des procédures qu'on va engager aujourd'hui et qui seront terminées, alors que des procédures qu'on a engagées avant la réforme vont encore continuer. Bon, c'est le côté un peu pénible de la vieille procédure, mais il y aura beaucoup de ça.
Ça concerne des procédures qui ont été engagées quand ou qui vont être engagées à partir de quand?
Alors, toutes les procédures qui ont été engagées avant le 1er janvier ne sont pas concernées. C'est-à-dire que même si vous avez une procédure qui est en cours, là, au moment où on se parle, alors que la nouvelle réforme est arrivée, vous n'allez pas bénéficier donc de ces dispositions procédurales. C'est pour ça que je vous disais que il y a des procédures avec la loi nouvelle qu'on va engager, qui seront probablement terminées rapidement, alors que les anciennes procédures, engagées parfois plusieurs mois, voire même plusieurs années avant,
vont continuer à l'ancienne.
Alors, mais c'est comme ça. Mais ça ne concerne que les procédures qui vont être engagées, enfin, à partir
du 1er janvier.
À partir du 1er janvier.
Bon, Schkoun, de la procédure de, et l'audience de conciliation.
Bah, il y a plus de.
C'est fini ça?
Ah oui, c'est terminé.
Ah,
il y a
terminé.
Plus. Oui, il y a plus de procédures et d'audiences de conciliation et c'est. Et ça se jouait quand même à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que les clients, les avocats devaient faire part de leurs demandes. Et puis, si la partie adverse n'était pas d'accord, donc elle devait motiver et dire pourquoi je suis pas d'accord, je suis n'importe quoi pour la garde, pour la pension alimentaire et autres. Donc cet aspect-là est terminé. vous avez une première audience et ensuite vous avez ce qui s'appelle une audience d'orientation, c'est-à-dire on va regarder un peu s'il y a des accords entre vous. Et il faut savoir que si vous êtes même pas obligé de demander au magistrat de statuer sur des mesures provisoires, vous pouvez juste demander, comme dire, oh, t'as passé à la deuxième partie de la procédure. Mais ça veut dire quand même, dans ce cas, on est un peu dans le meilleur des mondes, qu'il n'y a pas de litige entre monsieur et madame, que monsieur et madame sont d'accord sur qui va garder les enfants, qui doit payer la pension alimentaire. Donc théoriquement, ça peut être très intéressant et très rapide. On sait que dans la pratique, et en particulier en matière de divorce, hein, c'est encore une fois, c'est très prenant, hein, pour les clients. En matière de divorce, je ne sais pas si on fera toujours l'économie de cette bataille et de cette procédure.
Bien, alors, si vous avez une question à poser à Maître Serran, vous savez que le vendredi, vous pouvez le faire en direct à l'antenne. Vous appelez le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Si vous ne souhaitez pas passer à l'antenne et que vous préférez avoir une conversation avec Maître Serran en particulier, donc c'est sur
VIP.
Donc c'est son téléphone portable que vous appelez au numéro qui s'affiche.
Absolument.
Donc pour ce coin transistor, vous pouvez y aller.
C'est le 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, le best-of. Best-of. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Et Maître Serran est joignable en direct au 01 53 48 3000 si vous souhaitez lui poser vos questions. C'est maintenant que ça se passe, 01 53 48 3000. On a Ahmed qui est avec nous. Ahmed, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Philippe. Bonjour Maître Serran.
Bonjour Ahmed.
Comment vous allez? Bonne année, hein?
Bonne année à vous.
Meilleurs vœux, Ahmed. Bonne santé.
Meilleurs vœux, Philippe. En fait, moi, j'ai un problème avec mon bailleur. Moi, je suis colocataire, j'ai loué un appartement, ça fait en 2015. Et en 2018, j'ai un problème avec ma douche, j'ai réclamé et l'affaire, elle est partie en justice.
Ouais.
Et du coup, moi, j'ai pris un aide juridique.
Ouais.
Et l'affaire, elle est passée à la justice à Bobigny. Il y a le jugement qui est sorti que je paye le loyer parce que j'ai pas payé le loyer parce que j'ai dit si tu me répares par la douche, je paye pas le loyer.
Ah, alors je vais vous laisser terminer, mais je rebondis là-dessus. C'est un argument qu'on entend très souvent. C'est-à-dire que quand un propriétaire ne fait pas telle ou telle chose, le premier réflexe, j'allais dire presque humain,
c'est d'arrêter de payer le loyer.
De dire, bah, s'il fait pas ça, je paye pas. Sauf que, qu'on le veuille ou non, c'est ce qui, j'ai failli utiliser le terme horripile, mais on va pas utiliser que des vieux mots, c'est ce qui énerve aussi les magistrats. C'est-à-dire que, tant qu'un juge ne rend pas la décision, ou tant qu'un juge ne vous autorise pas, par exemple, à consigner éventuellement telle ou telle somme d'argent, vous devez continuer à régler le loyer. Il faut faire attention à ça. Je peux comprendre que c'est un réflexe quasi naturel, mais vous êtes en faute quand vous ne réglez pas votre loyer tant que la décision n'est pas rendue. Et donc ensuite...
En fait, c'est ça. Après, il y a le jugement qui est sorti. J'attends que le lucide justice m'envoie pour sortir, pour quitter les lieux. Et payer la somme.
D'accord, mais vous avez été expulsé alors, c'est-à-dire que vous connaissez déjà la décision ?
Non, j'ai eu la décision, mais j'ai pas expulsé, c'est ça le problème. Après, moi, j'ai constaté, j'ai pris le même avocat, l'aide juridique là, pour que il va renoncer le jugement en fait. Et il va faire, je sais pas comment.
Il va faire appel peut-être ?
Voilà, il va faire appel. C'est ça.
Ouais, alors faut faire attention aussi, mais vous le dira aussi bien que moi, c'est qu'en règle générale, dans ce type de procédure, quand vous faites appel, ça suspend pas la décision. C'est-à-dire que si, j'ai n'importe quoi, mais si le juge dit, écoutez, il y a une mesure d'expulsion qui est prononcée, vous avez le droit de la contester, évidemment, mais ça suspend pas la procédure. La procédure s'arrête pas jusqu'à ce que la cour d'appel rende une nouvelle décision. Donc votre dossier continue. Et on a parfois des personnes qui sont expulsés manu militari, c'est-à-dire avec un huissier, un commissaire de police, on vient, on les met dehors, alors que leur procédure devant la cour d'appel, elle n'est pas encore terminée.
Voilà,
faut faire attention à ça.
Qui se pose, maître, c'est moi qui veux rendre les clés parce que j'habite pas là-bas, elle n'est pas inhabitable l'appartement. Je veux rendre la clé pour la dame. Comment je vais faire? Est-ce que comment je vais faire? Mon avocat, je l'appelle tellement c'est un avocat, elle juridique, elle répond même pas.
Ouais, alors. Je vous coupe elle encore. Je vous coupe 30 secondes puisque ça fait plusieurs fois que vous utilisez le terme aide juridictionnelle, mais de manière un peu énervée quand vous le dites. C'est pas parce qu'un avocat est à l'aide juridictionnelle, entre guillemets, que le boulot est ou serait bâclé ou qui ne ferait rien. Il y a beaucoup de confrères très motivés à l'aide juridictionnelle et qui font leur boulot correctement. Donc c'est pas parce qu'elle vous a pas répondu que... n'en tirez pas comme conclusion, tiens, c'est à l'aide juridictionnelle, donc elle me répond pas. Peut-être qu'elle vous répond pas parce que il y a peut-être d'autres dossiers, il y a peut-être d'autres urgences, mais je vous assure c'est pas lié, il faut faire attention à ça. Les avocats désignés à l'aide juridictionnelle sont
pas de la justice toi.
Non, mais absolument pas. Ils ont la même formation que n'importe quel avocat. Après il y a un parcours qui fait que, mais ce sont des confrères et des consoeurs qui sont formés, compétents, il y a pas de difficulté là-dessus et heureusement que ce système existe. Hein.
OK, d'accord. Ben oui.
Et donc, alors, pardonnez-moi.
En ce moment, comment je peux faire pour ma clé? Parce que moi, j'habite plus là-bas.
Alors, puisque vous avez un avocat, en dehors de ce qu'on est en train de se dire, est-ce que vous arrivez à la joindre ou pas, il vaut mieux passer par son intermédiaire, c'est-à-dire lui dire, écoutez, moi j'ai la clé, et que cette avocate contacte l'avocat de la partie adverse pour convenir des modalités de restitution de la clé. Après, il n'y a rien qui vous interdit, monsieur, de contacter votre propriétaire directement. Et puis de convenir d'un rendez-vous pour procéder donc à cette restitution. Vous l'avez fait ça ou pas?
Je l'ai pas fait encore.
D'accord.
C'est pour ça que j'ai demandé en fait comment je peux faire.
Bon alors encore une fois, la logique voudrait que vous passiez par votre avocat, mais vous pouvez contacter le propriétaire directement
pour lui remettre la clé.
Voilà. Ce qui ne change rien sur le jugement. C'est-à-dire que si le jugement vous condamne, par exemple, à des dommages et intérêts ou à verser des loyers impayés, même si vous rendez la clé, le jugement s'applique.
Oui, je sais.
Ouais, voilà. Hein.
Le jugement, il est toujours là, en fait.
Ah oui, si le jugement vous a condamné, que vous rendiez la clé ou pas au propriétaire, le propriétaire demandera... à ce que cette décision soit exécutée, c'est-à-dire à ce qu'on un huissier va débarquer chez vous en disant, cher monsieur, vous devez payer tant. Voilà.
Hein. Oh, d'accord. Ok, d'accord. Merci, Ahmed.
Merci, Ahmed.
Merci,
Ahmed.
Bon courage.
Merci pour votre question. Alors, on est à... Qui c'est qui nous appelle de Toulouse, Nicolas? Alors, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, quel est votre prénom?
Caldia.
Pardon?
Caldia.
Caldia. Caldia, tu... Enlevez le haut-parleur si vous voulez bien, Caldia ou.
Je coupe la radio.
Voilà, comme ça on vous entendra mieux. Maître Serran vous entendra parfaitement.
Bonjour Philippe, je vous souhaite les meilleurs vœux pour cette année.
Merci, bonne année Caldia.
Tous les auditeurs. Je me permets d'appeler car j'avais un restaurant que j'ai vendu. J'ai pris un avocat pour faire les statuts de l'achat. Il s'est occupé avec moi de l'achat.
Oui.
Et de la vente, cet avocat. Sur Toulouse, et je me suis fait escroquer par les acheteurs. Fausse pièce d'identité. Les chèques qu'ils m'ont remis, ils étaient chez l'avocat. Je devais les retirer pendant 3 mois, certaines sommes. Et une fois que je les ai mis à la banque, ils avaient fermé les comptes. Et ces gens-là qui m'ont escroqué, c'est pour ça que je me permets d'appeler, c'est pour avoir un renseignement. C'est qu'il était recherché par la justice. Il devait faire 7 ans de prison ferme. Et est-ce que moi, je peux me retourner contre l'État français, comme quoi j'ai pas été protégé?
Enfin, pour répondre à votre interrogation, là comme ça spontanément, en quoi l'État français serait responsable? C'est-à-dire qu'il y a un type qui a été condamné pour des raisons X ou Y, quelle que soit la peine à laquelle il a été condamné, qui ensuite se porte acquéreur d'un bien, mais ça aurait pu être une voiture ou autre chose, peu importe. Le fait que l'intéressé ait un comportement d'escroc, mais le fait qu'il ait un passé judiciaire un peu lourd, n'engage en rien la responsabilité de l'État. Qu'est-ce que vous pourriez leur reprocher à l'État?
c'est qu'il devait faire ses 7 ans de prison ferme et qu'il les a pas fait.
Ah, d'accord. Ouais, mais ça, non, alors ça marche pas comme ça. Et heureusement, vous imaginez le truc. C'est-à-dire que si c'était à nous, citoyens, de dire, il y a un tel qui a été condamné, je comprends pas, je l'ai croisé tout à l'heure, il devrait être derrière les barreaux, ce serait un peu le chaos. Vous voyez, il y a une institution qui s'appelle l'institution judiciaire. Après, pour des raisons X ou Y, voilà, je serais incapable de vous dire, est-ce qu'il a fait, il a pas fait, et s'il a pas fait sa peine de prison, est-ce que c'est normal ou pas? Mais, voilà, quand on a une peine de prison.
C'est toujours pour la même chose, c'est pour être
croqué. Ah non, mais, encore une fois, j'entends, hein, et ça peut évidemment votre raisonnement étant de dire, mais si il avait été placé en détention, voilà, ou s'il avait été puni, on n'en serait pas là. Je l'entends et je le comprends, mais ça me semble, mais alors vraiment difficile d'engager la responsabilité de l'État au motif qu'il y aurait une sorte de manquement de leur part. Alors théoriquement, pourquoi pas? Alors faudrait y réfléchir de manière plus pointue, mais c'est pas ça qui va, entre guillemets, arranger vos affaires immédiatement. Vous savez, dans ce type de transaction, on a ça se passe pas en 24 heures, c'est-à-dire que celui ou celle, alors votre avocat, l'expert comptable, enfin peu importe, qui a pu vous aider pour mettre en place tout ça, pour organiser la vente, rédiger les statuts, s'assurer que les règlements se font. Encore une fois, ça se fait pas en 24 heures. Donc moi, ce qui me surprend, ou alors le type est un champion de l'escroquerie, mais ce qui me surprend, c'est peut-être le fait de s'être rendu compte de cette escroquerie peut-être tardivement. Mais là, quand vous allez sur place, c'est quoi, c'est un restaurant, vous m'avez dit, c'est ça?
Oui, c'est un restaurant.
Ouais. Bon, quand vous allez sur place, je sais pas, il y a quelqu'un. Bon, alors évidemment, avec la situation actuelle, la plupart des restos sont fermés, mais je sais pas, il y a quelqu'un qui vous ouvre, il y a une boîte aux lettres, il y a un nom.
Non, tout est faux, malheureusement. C'est une bande d'escrocs qui agissent dans toute la France. Il y a même un documentaire qui est passé sur M6 sur ce personnage-là. Et ça veut dire que sur Nice et Marseille, il a escroqué, il y a 1500 plaintes sur cette personne.
Ah oui, d'accord.
Pour le PACA.
Ah oui, lui il y va pas mollo.
Champion du monde, tant qu'à faire. Mais quitte à avoir de la prison, voilà, mais vraiment, autant
mais
faire
mais
un truc.
La question, c'est de savoir comment.
Est-ce que vous avez déposé plainte d'abord?
Oui, j'ai déposé.
Bon, alors, de ce que vous êtes en train de me dire, c'est que je pars du principe qu'a priori, c'est peu probable qu'il se passe quoi que ce soit ou qu'ils réussissent peut-être à mettre la main sur l'intéressé. Après, il y aura une autre option éventuellement, mais alors est-ce que ce serait là encore juridiquement jouable ou faisable? Ce serait peut-être de demander l'annulation de la vente, mais vous avez bien compris que annulation de la vente, ça veut dire que voilà, vous redevenez la propriétaire initiale du bien. Non. Donc il s'agit pas, encore une fois, hein, puisque vous êtes en train de me dire que vous étiez assisté d'un confrère.
Je porte plainte aussi contre lui, comme quoi il m'a pas.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que il faut aussi se poser la question de savoir si l'avocat qui a piloté cette transaction, en tout cas qui vous a assisté et qui était présent, n'a pas manqué de diligence. Donc c'est pas à exclure, et vous pourriez effectivement, selon moi, engager sa responsabilité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, d'abord vous pouvez écrire au bâtonnier pour dire, écoutez, voilà ce qui se passe. Mais le bâtonnier vous dira, écoutez, si vous voulez engager la responsabilité de cet avocat, à charge pour vous de le poursuivre. Ce qui veut dire concrètement une assignation, ce qui veut dire concrètement obligatoirement, vous adresser à un autre avocat.
Oui, mais voilà.
C'est cet autre avocat qui, alors, va d'abord se rapprocher du confrère pour lui dire, bon, voilà la situation. Et il y a deux choses. Donc, soit l'avocat qui vous a assisté dit, bah oui, en tout cas, reconnaît qu'il y a eu des erreurs et des fautes de sa part. Et il faut savoir que tous les avocats bénéficient d'une assurance. Et à partir de ce moment-là, s'il reconnaît spontanément, on va dire, il peut faire une déclaration de sinistre Et puis, c'est la compagnie d'assurance donc, qui va reprendre le dossier, qui sera amené à vous indemniser éventuellement. Soit il ne reconnaît pas d'erreur en disant « mais moi, j'y suis pour rien ». Et dans ce cas, effectivement, il devra être assigné par vous, donc par l'intermédiaire d'un autre avocat, et puis ce sera un procès. Et cette fois-ci, ce seront des juges qui pourront dire est-ce que cet avocat a, entre guillemets, fauté ou pas.
D'accord, c'est ce que les démarches que je fais actuellement.
Bon, alors écoutez, si ce sont ces mêmes démarches, continuez de les faire. Et puis, alors évidemment, il n'y a pas mieux que... vous avez été en contact quand même avec votre avocat, là, celui qui s'est occupé de la vente. Quand vous lui avez parlé de ça, il vous dit quoi? Il vous dit oui, je reconnais que oui, ou pas?
Non, pas du tout. Bon. C'est un gros cabinet d'avocats sur Toulouse. Et non, c'est-à-dire que moi... il m'a dit s'il pouvait m'aider, il fallait que je donne 5000 euros rapidement, et j'ai dit non, aidez-moi.
Alors après, c'est ce que j'allais vous dire. Après, vous savez, c'est difficile de demander à cet avocat-là, entre guillemets, que même si vous étiez amené à payer, de lui dire de continuer de gérer le truc, parce que il y a peut-être une responsabilité de sa part. Donc, il vaut mieux avoir un regard extérieur, qu'on le veuille ou non. Et oui, le regard extérieur, vous le trouverez avec un autre confrère.
Oui, ce que j'ai fait, et elle me dit, on va faire le courrier au bâtonnier.
C'est ça, c'est courrier au bâtonnier, courrier au confrère, parce que, encore une fois, peut-être que d'avocat à avocat, il peut être aussi amené à reconnaître son erreur. Et je le redis, tous les avocats sont assurés. Bon, voilà. Et si c'est pas le cas, ce sera un procès.
Voilà, je pense que malheureusement, ça ira là.
Voilà, Caldia.
Je vous remercie vraiment et bonne continuation.
On lâche rien. Gros bisous, Caldia.
Merci, au revoir.
Allez, d'autres appels dans un instant et d'autres questions à Maître Serran. Vos questions juridiques, c'est au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, le best-of. Best-of. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Alors visiblement, votre intervention sur le conseil de discipline, Maître Serran, suscite des réactions.
Ah bah écoutez,
au
c'est
standard
tant mieux.
De Beurre FM, au 01 53 48 3000. Nassim vous écoutait, il a eu envie de réagir. Nassim, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Nassim.
Bonjour Nassim.
Bonjour Maître Serran.
Bonjour Nassim.
Je vais juste à me garer parce que je suis en train de conduire. Et je risquerais de recevoir un procès verbal.
Bon, non, alors, je connais un bon avocat si vous voulez.
Ouais, mais je coûte plus cher que le procès-verbal quand même, hein. Attention, hein.
On va éviter. En fait, moi, je suis conseiller principal d'éducation.
Ouais.
CPE.
Ouais, CPE.
Voilà, le méchant CPE.
Le fameux.
Ah, ils sont pas tous méchants.
Pardon?
Non, ils sont pas tous méchants.
Bah, la preuve.
De quoi, les CPE?
Non, mais je suis assez peu gentil, donc.
Voilà. Alors.
C'est donc lui, il y en a un gentil.
C'est tant mieux.
Voilà.
Et en fait, je voulais juste rebondir concernant votre intervention sur le conseil de discipline.
Oui.
Donc, je souhaiterais apporter quelques questions par rapport à ce que vous disiez. En fait, le conseil de discipline, c'est une instance qui est composée du chef d'établissement, de son adjoint, du gestionnaire, du CPE, des représentants des parents d'élèves, des représentants des enseignants qui sont forcément de l'établissement.
Oui.
Parce que vous disiez, Maître Serran, que c'était des gens qui n'étaient pas dans le collège, enfin, dans l'établissement.
Non, pas prof de l'enfant concerné, mais vous avez raison.
Voilà.
Avait deux tronches insupportables, prof au sein de l'établissement, on est d'accord.
Voilà. Et on a des délégués élèves, et je crois que c'est tout, voilà. Et en fait, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le conseil de discipline, il est convoqué suite à un incident qui est très grave. Donc ça peut être là, récemment, on a eu un élève dans mon établissement qui a utilisé un briquet avec un aérosol. Donc on a eu une flamme de près de 40 cm et...
Évidemment, enfin, on est d'accord. Non, mais je suis pas en train de dire aux élèves, faites n'importe quoi et puis tiens, c'est bizarre, ils sont convoqués. Mais ça, je l'entends, je le comprends. Quand il y a de la violence physique, quand vous êtes en train de parler d'un type qui est presque en train d'utiliser un bazooka. Donc oui, évidemment que le conseil de discipline est à ce moment-là légitime.
Merci. Voilà.
Non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pas est-ce que le conseil de discipline est légitime ou pas à ce moment-là. Moi, je considère que c'est légitime. Je dis juste qu'à partir du moment où vous avez une instance où c'est de l'entre-soi, à partir du moment où vous essayez vous d'expliquer de faire comprendre à vos interlocuteurs voilà ce qui s'est passé et puis on va essayer de dépassionner le truc. Quand il n'y a pas d'autres éléments extérieurs que vous-même, voyez, dans un tribunal, on a un procureur, on a un juge. C'est pas le pote du chef d'établissement. Au sein de l'établissement, c'est un entre-soi. C'est ça, moi, qui me dérange. C'est-à-dire que quand vous allez au-delà, on vous dit non, mais attendez, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est embêtant.
Bah en fait, maître chef, enfin, je pense que ça dépend vraiment d'établissement dans lequel.
Ah, probablement, bien sûr. Voilà. Probablement.
Très clairement. Moi, j'ai eu la chance d'exercer dans pas mal d'établissements. J'ai fait de l'éducation prioritaire et j'ai fait des établissements un peu plus tranquilles. Et je vous garantis que ça dépend vraiment de la dynamique de l'établissement. Et par exemple, hein, pour revenir sur l'incident qui de l'élève qui a sorti, enfin, qui a allumé un briquet avec un aérosol.
Ouais.
Pour information, il n'a pas été exclu définitivement. Ah. Pour information.
Bah c'est ça qui est fou. Ouais, c'est la proportionnalité de la sanction, moi, qui me dérange.
Oui, mais le problème, c'est un vote, monsieur Serran. Enfin, maître Serran, c'est un vote, d'accord? C'est un vote. Donc, si vous voulez, c'est que c'est un vote.
Enfin, on peut voter être con aussi, hein. C'est-à-dire que oui, c'est un vote.
Ah, mais clairement.
Voilà.
Mais clairement.
Ouais, on est d'accord. Enfin,
mais ça veut dire que l'échelle de sanction n'est pas la même d'un établissement à un autre. C'est ça qu'il faut comprendre.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Mm-hmm. Bien sûr. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un incident de ce type-là, je vais caricaturer, à Villers-le-Bel n'est pas aussi mal perçu qu'ailleurs.
On est d'accord. Voilà. On est d'accord.
Qu'à Neuilly-sur-Seine. Moi, dans mon établissement, les parents ont voté contre l'exclusion définitive.
D'accord. Ouais.
Et moi, ce que je trouve dramatique, c'est qu'à un moment, on a failli avoir. Un élève qui aurait pu très mal finir, les parents, ça les a pas dérangés. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi, la connivence, je suis pas forcément d'accord avec
les arguments. Ça dépend vraiment des établissements, c'est ça que vous dites?
Ah oui, ça dépend des.
On peut pas généraliser.
Voilà, ça dépend de l'historique, ça dépend aussi des personnes qui composent le conseil de discipline, mais en fait, quand j'entends la psychologue dire c'est traumatisant. Oui, mais ce qui a été fait aussi par l'enfant, pour les camarades de classe, aussi pour les collègues. Donc, enfin, faut aussi relativiser.
Hein. Non, mais les camarades de classe, j'y crois pas au côté traumatisant. Enfin, sauf votre exemple où le type, il utilise son bazooka. Donc là, évidemment. Mais on va parler des choses moins graves. C'est-à-dire que si vous êtes un prof et que l'élève pète un peu trop fort et le prof est traumatisé, faut changer de boulot.
Ah, mais clairement.
Vous voyez, voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, faut aussi se mettre, voilà.
Ouvrir la fenêtre.
Oui, ouvrir la fenêtre, éventuellement, et s'enrhumer. Mmh. Mais, on peut pas non plus, dire, ah bah tiens, il a fait ça, je suis traumatisé. Eh bah, reste chez toi, ou démissionne. On a affaire à des gamins, c'est ça qui est important. C'est qu'on a affaire à des enfants qui sont en construction.
J'entends. Les enfants sont en construction. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on a des parents qui sont malheureusement de plus en plus procéduriers. Et effectivement,
Et moi, je veux savoir ce que tu veux dire.
J'aimerais terminer, maître Serran. Ouais.
Pardon, allez-y. Ouais.
Non, merci. Et en fait, après, moi, je pense que cette dynamique-là, je pense qu'elle a ses limites. J'ai eu il y a quelques semaines. Une maman qui m'a répondu suite à un appel au cours duquel je lui avais indiqué que sa fille avait balayé un camarade de classe, elle me dit, mais c'est normal, elle s'est défendue.
Balayer, c'est elle a fait du judo, du kung-fu? Ouais.
Oui, elle lui a mis une balayette en pleine cour de récréation devant 300 élèves.
Ouais. Est-ce que c'était vrai qu'elle se défendait? On appelle ça la légitime défense en droit. Est-ce que c'était vrai?
Non, du tout. Non.
Mais même en droit, ça existe, ça. Il y a un type qui vient, qui vous menace ou quoi que ce soit, vous avez un réflexe, vous lui collez un pain, il tombe par terre. Ça s'appelle la légitime défense.
Mais ce que dit Nassim est intéressant. Ça veut dire que, finalement, vous êtes en train de dire que les parents sont, de toute façon, du côté de leur enfant, qui les fait quelque chose ou pas, c'est ça?
Oui, absolument.
Mais si on raisonne comme ça, ça voudrait dire, ce serait une dichotomie absolue, c'est-à-dire que les parents de facto ils défendraient leurs gamins. Et sincèrement, j'y crois pas deux secondes. Et ça voudrait dire que les professeurs sont par définition pénibles. Et j'y crois pas deux secondes. Voilà.
Non, maître Serran, je ne vous dis pas que les parents. Heureusement que j'ai des parents qui sont formidables.
Voilà.
Heureusement, c'est la majorité. La majorité des parents que j'ai sont formidables, sont extraordinaires. Et en fait, le travail que l'on mène au quotidien avec les enfants ne peut être efficace que si on est en étroite collaboration.
Bien sûr.
On est d'accord.
Voilà. Mais après, je vous dis simplement qu'on a une minorité que je n'avais pas connue. Enfin, moi, ça fait presque 15 ans que je fais ce métier-là. Il y a 15 ans, en fait, je n'avais jamais de parents qui contestaient ce type d'échange téléphonique. Donc là, en fait, je vous dis, j'ai l'impression que la société prend une dynamique qui ne va pas forcément, selon moi, dans le bon sens. Après, peut-être que je me trompe, hein. Mais je crois que c'est important qu'on puisse aller dans le même sens, les parents et nous, dans l'intérêt de l'enfant.
Enfin, moi, ce qui me fait peur, dans, si je peux, on a encore deux minutes là pour répondre à Nassim. Moi, ce qui me fait peur dans ce que vous dites, vous voyez que lorsque j'étais dans ce conseil de discipline,
oui,
j'ai un professeur qui dit à ce gamin, oui, en plus tu t'en prends au professeur. Encore une fois, il faisait une caricature des profs. Mais à ce moment-là, vous indiquez, attendez, c'est-à-dire, et alors, je m'en prends au professeur, c'est pas le corps absolu qu'il faut pas toucher, on s'en prend aux avocats, aux magistrats, aux policiers, aux gendarmes. Et quand je vois un prof, là, qui monte sur ses grands chevaux en disant, mais en plus, tu t'en prends au professeur, et alors? Bah, sauf que, si vous répondez, et alors, ceux qui sont en face se disent, bon, bah, si l'avocat me répond ça, ou s'ils entendent ça, c'est qu'il n'a pas compris l'histoire. Et moi, je crois que l'histoire, je l'ai bien compris. Il n'y a pas, encore une fois, de protection absolue. C'est pas parce qu'on est prof qu'on peut pas faire, encore une fois, être l'objet d'une critique. Alors, de critique, je parle pas d'insultes ou de violence. On s'entend hein, quand on dit ça. Mais ce genre de réaction, moi, ça m'a soufflé. Bah, c'est-à-dire qu'on peut critiquer tout le monde, mais attention, surtout pas les profs. Bon, il y a quand même beaucoup à dire, quelles que soient les professions des uns et des autres.
Maître Sainte, c'est évident.
Voilà.
C'est évident. Maintenant, après, moi, j'ai suivi, j'ai pris une mission en cours de route. Apparemment, vous interveniez dans un conseil de discipline où un élève avait diffusé une vidéo sur le net.
C'est ça.
Voilà. Après, c'est vrai qu'en termes de d'image de l'établissement, de l'enseignant, en termes de crédibilité, c'est vrai que l'enseignant, malheureusement, a été très clairement dévalorisé. Après, bon, j'ai pas les tenants, les aboutissants, donc n'ayant pas
le terme, je vais être clair, le terme qui a été utilisé par cet enfant, il parle, alors il la cite pas nommément, mais il donne la matière, bon, on n'est pas fou, il dit, oh, bah, elle est relou. Bon, si on exclut quelqu'un définitivement sans sursis parce qu'il dit elle est relou, il faut exclure tous les pauvres gamins qui disent autre chose. Ouais, c'est encore une fois,
oui,
c'est la disproportionnalité du truc.
Oui, je comprends. Enfin, je peux comprendre. Après, moi, malheureusement, je suis dans un établissement où c'est l'inverse, où les parents ne suivent pas forcément les décisions que l'on souhaite prendre, sachant que très clairement, moi, je le dis, un élève qui passe en conseil de discipline, pour moi, c'est une défaite. Ça veut dire que j'ai été défaillant dans ma mission. Ça veut dire que j'ai mal fait mon travail.
Ouais.
Et à un moment, enfin, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir.
C'est finalement le conseil de discipline, c'est quelque chose de très rare.
Ça doit être extrêmement rare, mais surtout, ça doit remettre en question l'ensemble de l'équipe éducative. C'est indispensable parce qu'on est là pour les enfants, on est là pour les faire évoluer, on est là pour les faire réussir. Et à un moment, si on arrive à cette solution-là, si un élève sort son briquet et un aérosol en classe, je suis désolé, ça veut dire qu'on a mal fait le travail. Et quand je dis on a mal fait le travail, j'inclus la famille et l'établissement.
Bien. C'est rare ce matin qu'on ait le corps enseignant, en tout cas des membres de l'éducation nationale, qui s'expriment aussi librement que vous vous êtes exprimés tous les deux ce matin. C'est rare. Hein. En général, vous êtes plutôt discret sur ce genre de sujet. Et c'est important d'avoir votre point de vue pour qu'on entend rarement, en fait.
Bien sûr.
Donc,
Moi, j'ai rien. Enfin, je pense que c'est important d'être transparent. On essaie de l'être avec les différents parents d'élèves. Mais, je le pense, et j'insiste là-dessus, on travaille dans un intérêt commun, c'est voir réussir nos élèves. C'est ce qui nous importe.
Bien. Nassim, vous, on cite pas votre établissement, non?
Non, évidemment.
D'accord. Non.
Voilà.
En région parisienne. Ouais,
voilà.
En région parisienne.
Oui, voilà. Dans le Val d'Oise. Voilà.
Dans le Val d'Oise. Bien.
Merci,
en tout cas,
Nassim.
Merci d'avoir rejoint la conversation et d'avoir dit ce que vous pensiez, Nassim.
Très bien. Bon courage à vous.
Merci. Et puis bon vendredi, puisque vous allez au boulot, là.
Non, je ne travaille pas le vendredi.
Ouais. Ah, c'est bien d'être CPE.
Bah non, mais CPE, prof.
Il n'y a pas,
le vendredi où il travaille pas.
CPE, il travaille pas le vendredi?
Ben non.
Ah ouais. J'ai fini à 19h hier.
Ah, 19h du soir?
19h.
On vous taquine, Nassim. Merci en tout cas.
Merci, Nassim.
Bon courage à vous. Merci. Au revoir.
Au revoir. Vous enfilez des clichés ce matin, Maître Serran.
Ouais.
On peut pas généraliser.
C'est vrai.
Il y a des biens partout.
Ah oui, aussi, non, mais oui, aussi, non, mais voilà. Probablement. Mais les biens se font influencer par les mauvais. Vous voyez, c'est-à-dire que quand le chef d'établissement vous regarde de travers, le type, en règle générale, il se plie à ça. Moi, c'est ça qui m'embête. Je dis pas que tous ceux qui étaient au conseil de discipline sont des pénibles. Je dis que vous voyez qu'il y a une mauvaise ambiance quand le chef d'établissement est le chef d'orchestre et qu'il a envie, entre guillemets, de se débarrasser de X ou de Y.
Bien. Ah. Est-ce que vous diriez que l'imam Abdelali est relou, vous diriez ou pas?
Non, mais même
est-ce
si...
que vous le diriez devant lui?
Mais bien sûr, hein? Mais parce que même si je lui dis il est relou, est-ce que ça mériterait que l'imam Abdelali s'en prenne à moi en disant bah Maître Serran, c'est terminé?
Je pense qu'il s'en prendrait à vous.
Ah bon?
Ah ouais.
L'imam Abdelali.
Ah, l'imam Abdelali Mamoun, hein, si on parle bien du bon.
Ah d'accord, ouais, d'accord.
Il s'en prendrait à vous.
Ouais, du type violent et tout ça, avec son gros ventre. On parle bien du type au
non,
gros ventre.
Non, ça vous pouvez pas le dire. Ah mais bon, il est parti, je sais pas d'ailleurs. Il était là, il est arrivé, il est reparti d'ailleurs.
Ouais, mais vous avez vu, il est venu, il se tenait le ventre. Je crois que il avait pas le choix là.
Bien.
Donc il a été aux toilettes à côté et puis il va revenir d'ici une demi-heure.
Qu'il est bête. On vous retrouve vendredi prochain. Pour toutes celles et tous ceux qui ne sont pas passés à l'antenne aujourd'hui, vous pouvez toujours appeler Maître Serran sur son téléphone portable.
Absolument, 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Et en parlant de l'imam Abdelali Mamoun, eh bien vous le retrouvez dans un instant pour l'islam au présent.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.